hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir, Roland Barthes, numéro 5.
Je dis, je suis le seul à ne pouvoir parler vraiment de moi, et l'adjectif « vraiment » est important, ça veut dire qu'au fond, je ne suis moi-même qu'une sorte de collection d'images qui me sont renvoyées en miroir par la société, par mes lecteurs, et ce sont donc eux qui ont la vérité sur moi. Je suis en quelque sorte, moi en tant que moi-même, une espèce de zone extrêmement opaque ou fuyante d'opacité, de méconnaissance de moi-même.
Qui était votre frère, Michel Salcedo ?
Roland Barthes.
Mais encore ?
Dans ma jeunesse, je ne l'ai peu connu. Hein. Il avait ses amis, moi j'étais un enfant. Ensuite, il y a eu la guerre. Lui est parti en Sana. Et moi, après, je me suis engagé dans l'armée juste en décembre 1945, la guerre n'était pas finie. Et j'ai passé 2 ans dans l'armée, je suis sorti, ils sont partis en Roumanie. C'est après que nous nous sommes connus progressivement et surtout à la fin de sa vie.
Alors il faut préciser que le père de Roland Barthes est mort donc très jeune, oui. Comme on le disait hier, oui. Et que vous, vous êtes né, vous avez combien de différence d'âge ?
11 ans.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup, oui, oui.
Et puis l'éloignement dû à sa maladie a fait que oui. Vous n'avez pas eu une enfance partagée.
Non.
Alors pas ça fait tout. Quoi de connaître son frère par étapes progressivement ?
Je n'ai pas connu vraiment à un certain moment. On mangeait ensemble, mais il ne parlait pas à table.
Ah bon ? Parce que pourquoi ?
Parce qu'il gardait tout secret.
Et pourquoi ?
Il vivait une vie compartimentée. Certains amis, la maison, presque personne n'y allait, sauf les très intimes.
Alors, de quelle maison parlez-vous ?
À Paris, rue Servandoni.
Très peu de monde y avait accès ?
À très peu de monde, oui.
Et le repas se passait comment ?
À la maison, un repas familial, comme ça, gentiment.
Avec votre mère ?
Avec notre mère, oui. Qui faisait la cuisine elle-même, oui. Vivait très simplement. On avait une grande fracture entre la vie simple à la maison et ce que j'ai lu dans le livre de notre ami, là.
Tiphaine Samoyo, qui oui. est présente pour cette dernière émission oui. et qui a commencé oui. lundi. Pourquoi il ne parlait pas pendant les repas ? Parce qu'il pensait ?
Non, il ne parlait pas, il était secret. Une fois, je suis rentré dans son bureau, il était en train d'écrire. Vite, il a mis le buvard sur ce qu'il écrivait.
Parce qu'il n'avait pas envie que vous lisiez.
Le dernier livre qu'il a écrit avant sa mort, je l'ai trouvé caché au-dessus d'une armoire. Il était secret. Et tout était compartimenté. Je pense que tous ses amis aussi n'étaient pas les mêmes avec qui il sortait et ceux avec qui il voyait dans son travail.
Et cette vie-là, il n'en parlait jamais, ni à vous, ni à
non,
votre mère.
Non, personne. Un peu, parce qu'en titre, moi, je faisais un peu parler. Ma mère me disait, Michel, je ne sais pas comment tu fais pour que tu arrives à le faire parler.
Il vous paraissait très mystérieux ?
Non, pas mystérieux. On disait, il est comme ça, il est un peu taciturne, il est triste, il n'a pas de santé, il est triste.
Pas de santé ?
Oui, la santé, on attribue ça à la santé. Ma mère attribuait ça à la santé.
Et vous ? Vous aviez envie de vous promener avec lui, de partager
non,
des choses
non,
avec
non,
lui ?
Non, mais il ne m'invitait pas. Enfin, plus tard, oui.
Vous étiez
c'est
le
à partir
petit,
du
quoi,
moment
le petit.
Où je suis devenu professeur qu'il est devenu ami avec moi, vraiment.
Ah bon.
Mais quand j'étais jeune, je crois qu'il était gentil. C'était un être très humain et très gentil. Hein. Il n'a jamais dit... Au contraire, si je disais une bêtise, quelquefois, il me rectifiait. Politiquement, comme ça, quelquefois...
Quelle bêtise politique ?
Non, je ne faisais pas de bêtises, mais quelquefois, je pouvais parler. Et quelquefois, au contraire, il se servait de ce que je disais.
Par exemple ?
Par exemple, une fois, il était avec des amis qui ont tapé sur l'armée. Moi, j'avais été dans l'armée, je lui ai dit, tous les militaires ne sont pas des racistes, etc. J'ai dit, j'ai eu des militaires qui étaient très honteux d'avoir été en Algérie, etc. Il dit, c'est pas notre travail, nous, on n'est pas pour faire la guerre, on s'est engagé pour se battre contre les Allemands, on s'est pas engagé pour cela.
Est-ce qu'il vous a incité à faire des études ?
Non, mais il a été content quand j'en ai fait. C'est à partir de ce moment-là qu'on est devenu amis, disons. La peinture, je faisais de la peinture. Il avait un petit mépris pour la peinture. Paradoxalement. Pour la vraie peinture, je veux dire. Pas pour ce qu'il faisait, je veux dire. Puisqu'il ne considérait pas ça comme de la peinture, lui. Et d'ailleurs, tous les peintres qu'il aimait, c'était des graphistes, comme ça. C'est pas ce que les peintres appellent des peintres.
Et comment avez-vous choisi vos études ?
C'est venu très peu à peu. J'avais un ami peintre qui s'appelait Fishman. On s'est dit une fois, on va aller en Israël ensemble, faire un tour comme ça, oui. Et moi, toujours avant chaque voyage, je me préparais un petit peu en faisant un peu de la langue du pays. C'est comme ça que j'ai appris l'espagnol, parce que j'allais très souvent en Espagne. Ce ne sont pas les langues que j'ai apprises au lycée, mais les langues que j'ai apprises seul en général. Alors je faisais un peu d'hébreu. Et alors j'ai mordu à l'hébreu. J'ai trouvé que c'était une belle langue et j'ai mordu, littéralement. Lui m'a abandonné, il était communiste à ce moment-là. Le communisme s'est un peu séparé d'Israël à ce moment-là. Ça a changé, les voix ont été distinctes. Ben moi je suis parti et puis voilà, j'ai mordu à l'hébreu. J'ai pas mordu à Israël, mais j'ai mordu à l'hébreu. Et étant sémitisant, disons, je me suis mis à l'arabe pour ne pas me laisser... J'ai pas voulu me laisser enfermer, et puis j'ai fait de l'arabe aussi.
Mais ensuite, vous avez souhaité enseigner, comme votre frère.
Non, j'ai pas souhaité enseigner. J'ai une professeure, j'ai eu de très bons professeurs. Hein. C'était en général des Israéliens ou des... C'était des cours de l'agence juive, parce que j'avais pas de bac, moi. C'était des cours de l'agence juive et c'était des étudiants qui faisaient une thèse ici et qui, pour gagner un peu d'argent, donnaient des leçons à l'agence juive. Je suis tombé sur une professeure qui était très bien, puis sur une autre qui m'ont dit, écoutez maintenant, nous dans ce domaine de l'Ulpan, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, on ne peut rien vous apprendre, il faut que vous alliez à l'université. J'en ai parlé à Roland, il y a eu Vincennes, je me suis inscrit à Vincennes, il était enchanté. Parce que j'avais fait mon service militaire, ma période militaire, dans un régiment marocain. J'étais parti, j'avais été muté au Maroc, tout de suite, pendant la guerre, en avion, et j'avais été versé dans un régiment de spahis marocain. Donc j'avais un faible aussi, j'étais uniquement avec un contingent marocain, j'ai fait de l'occupation en Allemagne après, toujours avec des Marocains. J'ai toujours eu un faible pour l'arabe et les pays arabes, depuis jeune d'ailleurs. C'est pour ça que quand je me suis engagé dans un régiment marocain. Alors j'ai fait de l'arabe, mais comme je ne pouvais pas faire de l'arabe à l'université, puisque je n'avais pas mon bac... J'avais 16-17 ans, j'ai pas vu les études. Puis tous les copains, à ce moment-là, au moment en 44-43 et tout ça, presque tous mes copains ont été tués, d'ailleurs, pendant la guerre. Ils ont été fusillés par les Allemands.
Qui était votre mère ? Elle voulait pas vous tracer un destin particulier ?
Non, absolument pas.
Votre frère a accepté l'idée que votre mère ait une histoire avec un autre homme que... Son propre père.
Son propre père, il n'a pas connu pratiquement. Il est mort, il avait un an peut-être, ou quelque chose comme ça. Non, il y a une photo de lui, là, dans le livre, hein, à Roscoe, ou quelque chose comme ça, sur une place des Landes, où on voit qu'on s'entendait très bien. Enfin, non, il n'y a jamais d'animosité de Roland, de sa part, ni rien.
Alors, comment se passait la vie quotidienne à Paris, et aussi dans la maison d'Urte ?
Maison d'Urte, et ben on mangeait ensemble, et puis il travaillait, ou il faisait du piano avant le déjeuner. Vers 11h du matin, il allait au piano, il faisait du piano, et puis il travaillait. L'après-midi, il faisait une grande sieste. Ça, c'est depuis le Sana.
Vous l'avez vu revenir du Sana ?
Non, moi je n'ai rien vu. Moi j'étais dans l'armée à ce moment-là, ou quelque chose comme ça. Nous avons une vie tout à fait différente.
Ah, mais vous habitiez ensemble quand même.
Il dormait en haut, dans une chambre en haut. Oui, mais il ne parlait pas, Roland.
Mais c'est dingue, ça. Alors, il parlait à ses étudiants, il parlait...
Oui, il ne parlait pas à la maison. C'est comme ça.
Et votre mère supportait son silence ?
Oui, il est comme ça.
Et vous, ça vous paraissait pas bizarre ?
Ben, moi, j'avais ma vie.
Ah, mais ça devait être drôlement pesant, ça. Cette mère
mais non,
et ce...
Mais non,
et ce frère qui parlait pas.
Tout le monde était très gentil. On a toujours été très libres chez moi. On ne s'occupait pas les uns des autres. On s'aimait, mais on ne s'occupait pas les uns des autres. C'était très libre. Une sorte de petite démocratie, comme ça.
Et quand il jouait au piano, il jouait bien ?
Ben, il jouait du piano. Je ne m'en occupais pas. Moi, je ne suis pas musicien. Moi, j'aime la musique orientale. Je n'aime pas la musique européenne. Alors.
Ben, on va écouter la voix de votre frère
au
micro de Claude Maupomé. Je crois qu'il était très lié à cette grande productrice de Radio France qui travaillait à France Musique. Il va parler de Schumann.
Ça, à ce propos, tout le monde croit qu'il était très lié avec la personne avec qui il était, parce qu'il était très gentil. Il ne faisait de peine à personne. Le nombre de gens qui sont venus me voir après sa mort, j'étais le meilleur ami de Roland Barthes, mais j'en aurais pu aligner 50 comme ça.
Et alors, c'était faux.
C'était pas faux, mais il était peut-être très, très aimable avec cette personne pendant qu'il était avec elle. C'est tout.
Et...
À la maison, il me disait présent. Oh, encore, j'entendais cette phrase.
Encore un tel qui vient me harceler.
Oui.
Et ben,
ce qu'il aimait,
était...
c'est la tranquillité. Il aimait être très tranquille et en même temps à la maison. C'était son repos.
Il aimait sortir quand même aussi.
Il aimait sortir, oui, il sortait tous les soirs. Vers 5-6 heures du soir, il prenait sa douche et il sortait.
Et il allait où ?
Ah, ça, il ne le disait pas.
Et il revenait quand ?
Revenait à 1h du matin ou 2h du matin.
Ah, vous l'attendiez alors ?
Non, on l'attendait pas. Mais moi aussi, je sortais.
On va l'écouter, donc, parler de musique.
Schumann, comment l'entendez-vous, Roland Barthes ?
Eh bien, je l'entends comme je l'aime. Et peut-être me demanderez-vous comment l'aimez-vous ? Eh bien, ça, je ne peux pas répondre, parce que je dirais que je l'aime précisément avec cette partie de moi-même qui m'est à moi-même inconnue. Mais je sais que j'ai toujours aimé Schumann, et que je suis, je dirais, très sensible au fait que, comme toujours, lorsqu'on aime quelqu'un, au fait que j'ai l'impression souvent qu'on ne l'aime pas comme il faut, qu'on ne l'aime pas assez. Et je pense en particulier à quelque chose de très cruel qui a été, à un certain moment de l'histoire, du siècle dernier, l'exécution de quelqu'un que j'aime, à savoir Schumann, par quelqu'un que j'admire, qui est Nietzsche. C'est une exécution extrêmement cruelle, et puisque nous allons rester un certain moment avec Schumann dans un sentiment d'adhésion et de sympathie à l'égard de sa musique, je voudrais commencer par exorciser cette sorte de génie mauvais qui a poussé Nietzsche à le juger très cruellement. Si vous permettez, je lis la citation de Nietzsche qui se trouve dans « Par-delà le bien et le mal » et qui dit ceci « Pour ce qui est de Schumann, ne doit-on pas tenir pour un bonheur, un soulagement, une délivrance que précisément
son romantisme ait été surmonté. Schumann, toujours réfugié dans la Suisse saxonne de son âme, apparenté tantôt à Werther, tantôt à Jean-Paul, mais sûrement pas à Beethoven et sûrement pas à Byron, Schumann, avec son goût qui était au fond petit, je vise son penchant dangereux et doublement chez les Allemands au lyrisme silencieux et à la ribote de l'attendrissement sentimental, avec sa propension à se tenir à l'écart, à se dérober pudiquement, à se retirer, un délicat douillet distingué, une sorte de petite fille, un noli me tangere congénital, ce Schumann n'était déjà plus qu'un événement germanique en musique, non plus un événement européen comme l'avait été Beethoven ou, en une plus large mesure encore, Mozart. Avec lui, la musique allemande se trouvait exposée à son plus grand péril, celui de cesser d'être la voix de l'âme européenne pour n'être plus que l'interprète de l'étroitesse nationale. Eh bien,
cruel,
oui, c'est cruel. Ce n'est pas à nous d'entrer, disons, dans la partialité de Nietzsche à l'égard de Schumann et ensuite aussi à l'égard de Wagner, dans la mesure où c'est une partialité qui a produit des choses géniales. Mais je dirais que moi, personnellement, je trouve par une sorte de paradoxe du sort que Schumann possédait précisément les deux vertus nietzschéennes par excellence, à savoir la force et la noblesse. Et peut-être que si Nietzsche n'a pas reconnu Schumann, je dirais, bien sûr c'est une explication un petit peu psychologique, mais peut-être que c'est parce que leurs deux folies, l'attente, puisqu'ils sont tous les deux morts fous, leurs deux folies différaient.
Nous venons d'entendre la voix de votre frère, Michel Sazedou. Est-ce que la musique était importante dans la vie commune ?
Commune, non, mais dans sa vie, à lui, certainement, oui. Très, très importante, même. Il faisait tous les jours, il faisait un peu de piano. Toujours avant le déjeuner, il faisait du piano. Quand on s'est installé à Hurth, la première chose qu'il a fait, c'est de louer, d'acheter ou de louer, je ne me rappelle pas exactement, de louer, enfin d'avoir un piano à la maison. Chaque fois qu'on s'est déplacé, tout de suite, le piano, ça a été ce qu'il suivait.
Et l'écoute de la musique ?
C'est surtout, il écoutait, oui, mais il jouait, il aimait plus jouer que d'écouter, je crois. Mais alors il allait au concert, ça c'est une autre chose. Mais à la maison, je ne vois pas tellement écouter des disques ou des cassettes, pas tellement. En auto non plus, parce que si on voyageait ensemble, presque toujours, le voyage Paris-Hurth se faisait ensemble, c'est moi qui conduisais en général. Non, on ne mettait pas la radio, on mettait les informations, oui. Parce qu'il y avait toujours des événements. C'est au cours d'un de ces voyages qu'on a appris la mort de Camus, je me rappelle. Ça l'avait frappé, oui.
Mais effectivement, c'est depuis l'enfance que la musique jouée fait partie
toujours,
de la maison.
Toujours, il mettait une petite calotte. Je crois que vous avez une photo,
oui,
avec,
une photo
la calotte.
Avec la calotte.
Hein, on a
c'est aussi lié à votre calotte. Tante qui était professeure de piano et qui...
Sa tante, oui.
Oui.
Moi, je ne les ai pas connus beaucoup, les bardes. J'étais un peu éliminé, moi. J'étais pendant longtemps.
Éliminé, pourquoi ?
J'étais quand même un autre arrivé.
Par la famille paternelle ?
J'étais d'une autre famille.
Et ça posait des problèmes ?
Les bardes étaient des bourgeois locaux, disons. C'était des braves gens, mais pas riches ni rien, mais ils étaient des gens normaux de province, oui.
Et la famille Salcedo, elle n'était pas normale, alors ?
La famille Salcedo était excentrique, disons.
Pourquoi ?
Premièrement, c'est des gens beaucoup d'un autre milieu. Et puis mon père avait été quand même... Vous savez, ça rappelle un peu les romans d'Hemingway comme époque. Hein. Il a fait la guerre de 14. Il avait 19 ans quand il a été pris dans l'armée. Il a fait 5 ans de guerre, à peu près. Après ça, bon, il s'est amusé. Il y a eu plusieurs blagues avec les femmes, etc. Enfin, c'est la même époque des romans d'Hemingway.
Et votre père a vécu avec votre mère ?
Vécu, non. Peut-être un petit peu, quand j'ai de mémoire, j'en étais pas conscient.
Ah oui, donc c'est dingue. Vous êtes deux frères avec une mère qui élevait seule les deux enfants.
Pratiquement, oui, mais mon père, moi, je le voyais. Mon père aimait ma mère.
En tout cas, c'était loin de tout schéma
familial. Il aimait ma mère, mais elle était inatteignable avec Roland, disons.
C'est-à-dire ? C'était ça le véritable couple ?
Ça serait beaucoup dire. Mais enfin, certainement que elle Ben, elle ne voulait pas sacrifier son fils. Mon père était très... un peu oriental comme mentalité. Et il était un peu dur. Même avec moi, il a été assez dur. Quelquefois.
Et pourquoi votre frère n'a-t-il jamais quitté votre mère? Il aurait pu vivre tout seul.
C'est dur. Un homme sans femme, moi, je ne vois pas. Hein. Et une femme sans homme non plus. Non, je veux dire, on est très bien quand même, c'est agréable. Moi, je ne supporte pas de pas avoir de femme.
Et comment Roland considérait votre épouse?
Il était gentil, mais Roland était très gentil. C'est pas... Quelquefois, elle l'agaçait, certainement, mais il était très gentil. Il aimait bien. Non, il était très correct. Non, il n'y a pas de problème.
Dans ses textes, il dit souvent qu'il s'ennuyait. Est-ce que vous confirmez?
C'est vrai, il s'ennuyait. Il se distrayait beaucoup, c'est parce qu'il s'ennuyait. Il avait quelque chose de vide. Il était trop intelligent, peut-être. Et puis, il était triste aussi, parce qu'il n'a eu que des déceptions sentimentales, dans le fond. Tous ces garçons, moi, j'étais pas au courant, mais enfin, je me doutais, mais tous ces garçons, c'est des petits profiteurs, très souvent.
Il n'a jamais eu le grand amour?
Je crois pas. Ou bien ça a été toujours... Il était peut-être amoureux au début, et puis la déception arrivait très vite.
Et quand avez-vous compris, vous, Michel Salcedo, que Roland Barthes, c'était Roland Barthes, si j'ose dire, c'est-à-dire un écrivain, un grand professeur?
Tout de suite. Oui. Il n'y a pas eu de problème, c'était normal. Il n'y avait pas à comprendre, la vie s'écoulait normalement, comme ça, lentement, à la maison...
Il y avait beaucoup de...
Et lui ne changeait pas à la maison. Il ne faisait pas le grand écrivain. C'était Roland, et puis c'est tout. On n'en jamais pas, même pas Roland Barthes, c'était Roland. C'était très simple.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il avait caché un manuscrit que vous avez découvert, donc rue Serpent
non,
de Nîmes.
Non, j'ai découvert après sa mort. Mais enfin, je veux dire, il cachait, il ne montrait pas tout. Il était secret, probablement vis-à-vis de tout le monde, c'était compartimenté. Certains amis ne sont jamais venus à la maison.
Et puis les amis ne se connaissaient pas entre eux?
Non, probablement. Ma mère me disait qu'il aurait fait un bon évêque ou un bon cardinal.
C'est vrai?
C'est vrai, oui.
Manifestement, il y avait beaucoup de rites dans votre vie quotidienne.
Lui en avait, moi je n'en avais pas. Enfin, de rites. Oui, c'était assez ritualisé. Je levais, vers midi, il faisait le piano en attendant le déjeuner. Après, il faisait la... Mais ça, c'est à cause du sana, je crois.
Oui, il faisait une sieste tous les jours.
Il faisait la sieste tous les jours. Ça, il avait appris à vivre d'une façon très réglée, monacale, disons, sans austérité. C'était un moine sans austérité.
Vous ne l'avez jamais accompagné dans ses voyages?
Non, jamais. Jamais. Il est venu une fois avec moi, voir Ubiroy, avec Vinaver. On avait acheté une voiture et après ça, on a été en Espagne. Et moi, je m'étais disputé un peu avec lui à ce moment-là, parce que moi, j'ai toujours aimé beaucoup le Maroc, et je voulais passer à Tanger. Il m'a dit, non, on ne passe pas à Tanger. À ce moment-là, il n'avait pas été aimé encore le Maroc. Et moi, j'allais souvent au Maroc. J'allais souvent à Tanger, avec ma femme aussi, comme ma femme était marocaine. J'ai toujours eu des femmes marocaines dans ma vie, pratiquement. Ma femme était marocaine, alors on allait à Tanger ou bien à Casa chez sa famille. Et je voulais aller au Maroc, il n'a pas voulu. Après ça, il s'est emballé sur le Maroc. C'est assez bizarre, oui.
Vous avez lu le journal de deuil, j'imagine?
Oui, bien sûr, oui.
Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez perçu la même chose de la maladie de votre mère?
Non. Non, moi j'avais une femme, c'est un peu différent. Ma femme venait la soigner, lui apportait des plats parce qu'elle faisait très bien la cuisine. C'était une facie, ils sont réputés pour leur bonne cuisine. Et elle lui apportait un petit peu, ma mère était très contente de cela. Mais c'est lui qui s'est occupé, de la faim, c'est lui qui s'est occupé.
Et vous pensez souvent à votre frère?
Oui.
À un moment, à la fin... Après la mort de votre mère, il se rapproche beaucoup de vous, il le dit régulièrement.
Oui, on était ensemble, oui, on était très ensemble. Et puis alors moi j'avais fait des études à ce moment-là, j'étais déjà dans l'enseignement et tout ça, ça nous a beaucoup rapprochés ça.
Et puis il est touché d'évoquer l'année que vous aviez passée ensemble à Bedouce, la première fois où il a été malade et où il a dû...
Mais je ne l'ai pas vu à Bedouce, finalement, parce que lui, à ce moment-là, moi, j'étais tout à fait un gosse à l'école. Je jouais avec les gars du village, comme ça. On se déguisait au carnaval et tout ça. On allait demander des bonbons aux commerçants. Enfin, c'était tout à fait notre vie. Lui, il était déjà... Je sais pas, il y avait deux villages. Il y avait Bedouce, qui était un village catholique. Et puis, il y avait un village sur la montagne, en face, qui s'appelle Os, qui était protestant. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a été à Bedouce. On a été d'abord à Os, mais Os n'a pas plu à ma mère ni à moi. Mais ils voyaient qu'ils avaient quand même un petit soutien, disons... À Os, il y avait un petit peu de... Peut-être quelques intellectuels, je ne sais pas.
Il faisait du piano avec la femme du pasteur.
C'est ça, ben oui. Voilà, il y avait quelque chose, il allait à Os. Moi, je faisais de la bicyclette avec les gars du village. Mais le problème de santé nous a quand même beaucoup séparés à ce moment-là. Hein. Surtout à Bedouce, moi je me suis fait une santé, au contraire à Bedouce, alors que lui s'embêtait beaucoup. Il s'embêtait beaucoup à la campagne, comme ça. Même si dans un de ses livres, il en parle d'une façon agréable, comme ça, d'une façon... Mais parce que ça, c'est un roman. Tout ce qu'il écrit, c'est tout. Il faut lire ça comme des romans. Il le dit, d'ailleurs, comme un roman.
Quels sont les textes que vous relisez de votre frère ?
Je n'en relis pas. J'en ai relu beaucoup au moment où j'ai eu le procès... Avec BHL.
Quel procès ?
Ben BHL qui voulait s'emparer des cours, qui avait commencé à les publier sans rien dire, sans demander d'autorisation et tout ça. Et ça avait été transcrit plus ou moins bien par quelqu'un qui n'était ni un professeur ni un intellectuel et tout ça. Ben après ça, ça a été publié sérieusement par Éric Marty. Mais j'ai eu un procès que j'ai des héritiers au pluriel, comme si j'étais une sorte de puissance comme ça. Et j'ai gagné à la fin, après 3 procès, en appel, etc.
Comment avez-vous appris que votre frère avait été renversé par une camionnette alors qu'il se rendait au Collège de France ?
Par un policier. Je venais d'arriver d'Israël. J'avais laissé ma femme en Israël parce que je crois que une de ses sœurs était malade ou comme ça. Je lui ai dit, ben, reste encore une semaine. Moi, je vais rentrer. Roland était venu me chercher à l'aéroport avec Youssef Bakouche, qui a été toujours très gentil avec moi, surtout. Je voulais dire que tous les gens d'origine arabe ont toujours été très, très gentils avec moi. Youssef Bakouche, qui est venu me chercher, et puis on avait un repas dans une brasserie, près de la Bastille, oui, c'est Poffinger, le soir même, et Roland m'a dit « Demain, ben, je viens, je voudrais prendre le thé à la maison, parce qu'on prenait toujours le thé ensemble. » Et puis j'ai attendu au thé, il ne venait pas, jusqu'à ce qu'il y ait un gendarme qui est venu me prévenir qu'il avait eu un accident. Et puis j'ai couru à l'hôpital. Et alors il y a eu un mois de maladie qui a été assez pénible, parce que tout le monde voulait rentrer, tout le monde... Ça a dû être assez dur pour lui.
A-t-il vraiment voulu continuer à vivre ?
Oui, absolument.
Certains disent que non, mais d'autres disent qu'il s'est accroché à la vie jusqu'au dernier moment.
Moi, il m'a dit, je n'en ai pas pour longtemps. Au début, il croyait que c'était une simple blessure, mais le fait est qu'il était très faible du côté pulmonaire. Très, très faible. Il fumait beaucoup. En plus, c'était presque... Il ne pouvait pas supporter avec un seul poumon... Enfumé comme il était, il n'a pas pu supporter. C'était presque normal. C'était très triste parce que ça s'est fait comme ça, tout doucement, avec tous ces gens qui venaient, alors qu'il aimait la solitude. Enfin, il aimait se distraire auprès des autres, mais il aimait, quant à lui, être seul. Toujours un côté secret, disons, vis-à-vis de tout le monde.
Et il garde peut-être son secret aujourd'hui.
Non, il n'a pas de secret dans le fond, mais il aimait être tranquille dans le fond. Il n'aimait pas. Non, il ne garde plus son secret parce qu'il a trop. Il a écrit beaucoup et maintenant ça y est, tout est ouvert.
Grâce à vous ?
Non, pas grâce à moi.
Ben, vous avez autorisé tout.
Ben oui, sans ça j'aurais été traité de censeur. impossible de ne pas autoriser à l'heure actuelle.
Pourquoi ? Parce que vous auriez bien aimé garder...
Non, pas garder, mais non, garder jusqu'à ma mort, enfin jusqu'à ce que les choses soient tout à fait posthumes, oui, j'aurais mieux aimé. Et puis vous savez, François Val est venu, il a farfouillé dans les manuscrits et tout ça, il a commencé un peu à notre inquisiteur. Ah, il y a ça de Roland, plop, plop, plop. Et quand on est d'une notoriété publique, on n'est plus tout à fait soi-même, hein, malheureusement. C'est pour ça qu'il gardait la maison, d'ailleurs, un peu fermée, comme ça. Enfin, il y avait quelques amis qui venaient déjeuner, il y a quelques amis qui sont venus à Urte, tout ça, mais très peu, quand même.
Alors, Tiphaine a préparé quelque chose. Elle a commencé cette série lundi dernier.
Oui.
Et on va terminer avec elle. Je lui ai proposé une carte blanche. Comment quitter Roland Barthes au bout d'une semaine ? Eh bien, elle a écrit quelque chose, donc on va l'écouter.
On va l'écouter, oui.
Ce que je propose, c'est des nouvelles images, enfin quelques images, autres que celles qu'il a proposées sous le nom de Biographème dans Roland Barthes par Roland Barthes, et qui sont à la fois du vécu et du roman.
Oui.
C'est-à-dire que ce sont des images qui synthétisent, non pas forcément du vécu, mais un sentiment du vécu ou une expérience du vécu. Donc on en connaît plein hein, chez Barthes. Il y a évidemment l'ennui, on en a parlé,
oui.
Les migraines, hein, l'ordre alphabétique,
oui.
Le vaisseau Argo, la baladeuse du tramway. Donc toutes ces images qui accompagnent l'idée qu'on se fait de lui lorsqu'on le lit. Et donc j'en ai trouvé un certain nombre d'autres hein, qui sans doute aussi, Michel Salzedo, sont à la croisée de la vérité historique et d'une certaine forme de roman, vous me direz. Mais qui m'ont accompagné ou m'ont frappé dans l'itinéraire que j'ai eu avec lui en écrivant cette biographie. Donc je vais les donner un petit peu dans le désordre, mais voilà, certaines de ces images vont entrer en résonance avec ce que vous avez dit, à commencer par les bagues qui peuvent évoquer ce que vous disiez de l'évêque, tout à l'heure, oui. Puisque Barthes aimait les pierres, et en particulier les pierres semi-précieuses,
oui.
Et en particulier les bagues serties de pierres herborisées. Vous voyez ces pierres où on enferme une fleur à l'intérieur de la
oui.
pierre. Et donc il les choisissait dans différentes boutiques, notamment chez le bijoutier Sartorio, qui se trouvait boulevard Raspail. Il les portait parfois. Un autre... Biographème, me semble, cette petite
ils
cabane.
Ils les mettaient pour sortir, mais pas à la maison.
Oui, c'est ça. Donc c'est cette cabane qu'il s'était fabriquée dans la maison Lanne à Bayonne, donc
oui.
Que vous avez peu connue, avec cette très belle remarque qu'il fait à la fin de sa vie à propos de cette cabane et qui entre en écho aussi avec quelque chose que vous avez dit, puisque c'est cette cabane qui lui permet de définir la gentillesse, précisément comme valeur, la gentillesse
oui.
qui régnait dans cette famille. Et je le cite, « Pensez qu'enfant, je m'étais fait une retraite à moi, cabane et belvédère, au palier supérieur d'un escalier extérieur sur le jardin. J'y lisais, écrivais, collais des papillons, bricolais. Cela s'appelait, basque plus latin, gauchoquissime. » Ce qui signifie en basque, hein, gauchoqui, douceur, endroit tranquille. Et il associe le souvenir de ce nom, hein, sa mère avait aidé à trouver ce nom, à la profonde gentillesse, à la grande générosité, à la bonté sans mélange qui régnait dans cette maison. Et il explique que cette gentillesse de sa mère et la liberté qu'il lui laissait ont été absolument déterminantes. Et il demande pourquoi, par exemple, Freud ou d'autres... personne n'a fait de la gentillesse une véritable valeur constructive,
ouais.
déterminante dans la construction d'un être. Il me semble que ce vocabulaire qui porte parfois des connotations légèrement dépréciatives, il faut leur accorder ici la force d'un comportement constamment bienveillant hein, et dont par la suite,
oui.
en particulier dans le journal de deuil, Barthes valorise sous le nom de délicatesse.
Oui, c'est drôle parce que ce terme de gentillesse, moi je dis souvent de quelqu'un qu'il est gentil, ça ne plaît pas beaucoup en France, ça ne plaît pas. C'est comme si c'était une faute de dire ça. Et ça probablement avec Roland, certainement, oui.
En tout cas, c'est frappant
c'est
que
un
le terme
mot que,
revient
oui,
souvent.
Le terme était de la maison.
Oui,
hein.
il y avait
beaucoup de termes qui appartenaient à la maison.
Je l'entends vraiment comme un vocabulaire
oui.
commun entre vous et lui.
Oui,
Alors un autre petit biographème sur lequel je pense, Michel Salcedo, vous aurez beaucoup à dire, c'est, puisque c'est vous qui l'avez trouvé dans Paris un soir, c'est Le Chien.
Oui.
Et moi je voudrais juste évoquer, avant que vous racontiez peut-être comment vous l'avez trouvé, oui, que lorsque ce chien est mort en avril 64, alors que vous étiez à Urte pour des vacances de Pâques, Bart, qui aimait jouer avec lui, en éprouve du chagrin. Mmh. Et j'ai été très frappée par un fragment inédit du Roland Barthes par Roland Barthes, où il déplace cette tristesse de la mort du chien du côté d'une réflexion sur le courage de l'animal. Et il dit « Cette mort nue, elle ne pouvait même pas choisir d'être silencieuse, puisqu'un chien, ça ne parle pas, m'a touchée. Tous les laïus stoïciens de mes versions latines me revenaient à propos de ce chien, purifié enfin de toute emphase. » Et pour ainsi dire, de tout langage, il devenait crédible. Et la façon dont le chien repose aussi du discours et de la violence des discours dont il avait une véritable détestation m'a frappé. Et peut être mise en relation aussi avec le très très beau passage sur le chat jaune de l'abbé de Chateaubriand dans la préface qu'il donne à La Vie de Rancée, quand il évoque ce chat. Et donc ce rapport quand même à l'animal comme celui qui peut reposer de la parole, et en particulier de la parole d'autorité ou de la parole de maîtrise, et rattacher finalement l'animal à la littérature. Alors je voudrais aussi évoquer ce chat jaune de l'abbé Seguin. Peut-être ce chat, écrit Barthes, est-il toute la littérature ? Car si la notation... Donc la notation du chat jaune chez Chateaubriand renvoie sans doute à l'idée qu'un chat jaune est un chat disgracié, perdu, donc trouvé, et rejoint ainsi d'autres détails de la vie de l'abbé, attestant toute sa bonté et sa pauvreté. Ce jaune est aussi tout simplement jaune. Il ne conduit pas seulement au sens sublime, bref, intellectuel. Il reste entêté au niveau des couleurs. Donc il y a eu une humilité, une discrétion, un silence de l'animal, qui me semblait intéressant aussi de noter. Donc c'est vous qui aviez trouvé ce chien, Michel Salcedo.
Oui, je vais vous raconter l'histoire, si vous voulez. C'était un jour de grève, vous savez. Comme il y a des grèves, souvent, d'autobus, de métro, tout ça, à Paris. Hein. Alors, j'allais chez une amie roumaine qui habitait place Victor Hugo, près de la place Victor Hugo, rue de la Pompe, exactement. À pied, depuis la rue Servandoni. À Iéna, je vois un chien. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là, etc. Je commence à le caresser, le chien me suit. Il me suit jusqu'à l'appartement de l'avenue Victor Hugo. Je dîne, je le laisse à la porte, puisque ses amis avaient aussi un chien, une chienne, plus précisément. J'ai eu peur qu'il y ait des aboiements, des disputes entre animaux. Je le laisse à la porte. Quand je sors, le chien était là. Il m'attendait. Je suis revenu à la maison. Il m'a suivi. Il traversait très bien. Il m'a suivi jusqu'à la maison. J'ai dit à maman, je ramène un chien. Il dit, encore une fois, parce qu'on a souvent ramené des animaux. Comme ça. Voilà. Et ce chien, je l'ai appelé Lux. Parce que j'avais dans la tête, je ne sais pas cet exemple de grammaire latine, Lucullus, digne, c'est Lucullus. Lucullus, je me suis dit, c'est trop long. Je l'ai appelé Lux, parce que les chiens doivent s'appeler Dick ou Bob ou des noms très courts.
On évoquait tout à l'heure son rapport à la peinture qui était surtout marqué par le goût pour l'écriture.
Oui.
Et même son rapport à la musique était aussi en rapport, enfin, avec un amour de l'écriture. Oui. C'était par exemple quelqu'un qui déchiffrait très bien, qui ne jouait pas par cœur, qui aimait la musique écrite. Et ça, ce rapport à la musique écrite, oui, me paraît aussi un biographème notable.
Je ne sais pas si j'en ai encore à la maison, mais j'ai des musiques
à noter.
Pas écrite par lui.
Ah oui, oui.
Transcrite par lui.
Parce qu'il y a une composition musicale aussi de lui dans les archives. Il
ça
composait.
Se peut, oui, ça
oui.
Se peut.
J'en ai trouvé une.
Il a fait de la composition.
Absolument.
Il a pris des cours même, je crois, maintenant. Puis il y avait des cours avec Panzera aussi pour le chant.
Oui, et de la même manière, il n'avait pas un rapport intellectuel avec la musique, d'où l'impression par moment qu'il avait un jeu, et ça a été ressenti par certaines des personnes qui l'ont écouté jouer, un jeu démodé. Et reconnaît aussi que son amour pour Panzera, c'est un amour pour une musique qui s'est démodée. Et là encore, Il évoque avec nostalgie cette action du temps en parlant de délabrement, d'éventement de forêt chantée par Panzera. Je marque Boutet sur cette valeur absolue, mais je reconnais qu'elle n'est plus partagée. Je suis seule à aimer. Et enfin, un dernier biographème que je voudrais inscrire, en écho avec un passage aussi qui m'a beaucoup frappé, où il dit que l'année 1915, l'année de sa naissance, est une année où personne n'est né, où il ne s'est rien passé, qui est une année... Donc cette remarque un peu absurde et en même temps touchante, hein, d'une année qui ne veut rien dire. J'ai remarqué que les années très frappantes, celles qui occasionnent des tournants importants dans son existence, sont des années doubles. Hein. C'est l'année 1955 avec la rupture avec Camus et l'engagement aux côtés de Sartre. C'est l'année 66 avec la polémique avec Picard et la découverte décisive du Japon. Et puis l'année 77, bien sûr, qui est l'année de la mort de votre mère et qui détermine tous les projets mis en route dans les années qui vont suivre.
Merci Michel Salcedo, merci Tiphaine Samoyo de nous avoir accompagnés tout au long de cette série d'émissions consacrées à Roland Barthes. Je rappelle que votre biographie vient de sortir et on va se quitter en écoutant les dernières phrases du premier séminaire au Collège de France, une leçon de vie.
Périodiquement, je dois renaître, me faire plus jeune que je ne suis. À 51 ans, Michelet commençait sa Vita Nuova, nouvelle œuvre, nouvel amour. Plus âgé que lui, on comprend que ce parallèle est purement d'affection, plus âgé que lui, j'entre moi aussi dans une Vita Nuova marquée aujourd'hui par ce lieu nouveau, par cette hospitalité nouvelle. J'entreprends donc de me laisser porter par la force de toute vie vivante, à savoir l'oubli. Il est un âge où l'on enseigne ce que l'on sait, mais il en vient ensuite un autre où l'on enseigne ce que l'on ne sait pas. Cela s'appelle chercher. Vient peut-être maintenant l'âge d'une autre expérience, celle de désapprendre, de laisser travailler le remaniement imprévisible que l'oubli impose à la sédimentation des savoirs, des cultures, des croyances que l'on a traversées. Cette expérience a, je crois, cette troisième expérience a, je crois, un nom illustre et démodé, malheureusement, mais que j'oserais tout de même prendre ici sans complexe, au carrefour même de son étymologie. Ce nom, c'est sapientia. Nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse et le plus de saveur possible.
Merci Michel Salcedo, merci Tiphaine Samoyo. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une monumentale biographie consacrée à Roland Barthes, parue au printemps dernier, remarquable biographie parue aux éditions du Seuil. Roland Barthes continue à être d'actualité en cette rentrée littéraire, puisque le livre de Laurent Binet intitulé « La septième fonction du langage » et qui vient d'obtenir le prix FNAC prend comme point de départ la mort de Roland Barthes, qu'on attend pour début octobre un livre de Philippe Solers aux éditions du Seuil intitulé « L'amitié de Roland Barthes », que a été publié à la fin de ce printemps un très beau livre de Chantal Thomas intitulé « Pour Roland Barthes », et que Jean-Marie Schaeffer vient de publier « Lettres à Roland Barthes » et que la semaine prochaine, vous pourrez découvrir un portrait très émouvant de Roland Barthes sur Arte. Merci à Stéphane Desmonts, Corinne Amard, Élodie Royer, Julien Rosa, Didier Lagarde. Bonne soirée à l'écoute de France Culture.